Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La joie de vivre, quel joli nom pour une émission. Ce fut celui d'un programme radio et télé diffusé simultanément entre 1952 et 1960. Son principe, une personnalité, chanteur, comédien, artiste, venait en public sur la scène du café-théâtre L'Alhambra, interpréter quelques numéros, entouré de ses amis et compagnons de route artistique. Le 11 octobre 1953, ce fut le tour d'Yves Montand, alors au sommet de sa gloire. Il faisait, comme chanteur, salle comble à l'Étoile, et Le salaire de la peur de Clouzot, son premier grand rôle au cinéma, avait remporté cette année-là la Palme d'or à Cannes et l'Ours d'or à Berlin. Du beau monde, il y en eut pour l'accompagner ce soir-là. Bernard Blier, Pierre Brasseur, Francis Lemarque, Daniel Delorme ou encore Simone Signoret, bien sûr, dont on n'entendra pourtant pas la voix, mais seulement les qualités de pianiste, disons, discutables. La joie de vivre d'Yves Montand, première diffusion sur la chaîne nationale le 11 octobre 1953.
De l'Alhambra Cinéma Musical à Paris, Henri Spade et Robert Chazal présentent aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion télévision française la joie de vivre. Émission télé-radio diffusée, animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade. Avec aujourd'hui, Yves Montand et Daniel Delorme, Simone Signoret et Bernard Blier, Pierre Brasseur, Henri Crolla, Raymond Leibovitch et sa chorale des Amis de la Nature, Francis Lemarque, Harry Max, François Perrier et les musiciens de Bob Castella. Réalisation André Hugues, speaker Charles Bassompierre. Avec bien entendu Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de...
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle.
Bonsoir monsieur.
Aujourd'hui, la joie de vivre d'Yves Montand.
Né à Montsumano, Italie, le 21 octobre 1921.
Je ne sais pas, Yves, ce qu'on jouait à Montsumano le 21 octobre 1921, mais en tout cas, ce jour-là, voilà ce qu'on jouait à Paris.
Thank you. je veux m'excuser auprès de mes camarades qui sont absents de Paris ou en tournée ou à Marseille, par exemple. Mon camarade Jacques Prévert se trouve en ce moment à Saint-Paul-de-Vence. J'ai pas pu le faire venir parce qu'il est là-bas. Puis les camarades de classe ou de lycée. Non, là, je triche. Parce que j'ai jamais aimé.
Ah, Yves, la vérité, hein?
Oui, oui.
Toute la vérité.
La vraie joie de vivre, pas la joie de vivre qu'on lit dans les journaux, la vraie.
J'aime le dire lycée parce que ça fait un petit côté bien, comme ça. D'école, enfin, des camarades de classe, j'ai pas pu les faire venir parce qu'ils sont là-bas. Puis d'autres camarades qui ne sont pas là ou absents de Paris ou parce qu'ils répètent ou parce qu'ils sont à Londres ou ailleurs.
Enfin, ils font quand même partie, ceux-là aussi, de votre joie de vivre. Enfin, ceux que nous allons voir les représentent tous. On va prendre ce.
Alors, bien là. Ceci dit, où et comment commence votre joie de vivre?
Eh bien... Ah oui, parce que je veux pas faire de gaffe, hein. Attention.
Pas au lycée.
Oui, bah non. Bon. Ma joie de vivre commence à Marseille, dans la métallurgie.
Vous étiez métallo?
Pas tout à fait métallo, parce que c'est pas si simple que ça d'être un bon métallo. J'étais simplement frappeur dans une usine de métallurgique. Alors, on faisait des turbines de bateaux, on faisait...
L'usine.
Oui, c'est ça.
Oui.
L'usine, prêt à taper avec une masse sur des tôles qui ont chauffé à blanc et qu'il fallait redresser.
Ah, il a l'accent, il a dit que... les tôles.
Oui, je dis les tôles, oui, des fois, voilà. Je fais attention. Voilà.
Je voudrais dire qu'il y a un garçon que, malheureusement, nous n'avons pas pu avoir aujourd'hui ici. C'est un monsieur que vous aimez beaucoup sans le connaître, d'ailleurs, c'est Jean Eiffel. Et vous m'aviez demandé que Jean Eiffel soit là. Et il y a une chose que Jean Eiffel m'a répondu quand je lui ai demandé de venir, et il m'a dit « je peux pas parce que je serai à Hambourg ce jour-là ». Il m'a dit, ça m'aurait fait bien plaisir parce que la chose que j'aurais aimé dire à mon temps, alors je vais vous la dire de sa part, c'est que j'aime mon temps parce qu'il est resté fidèle à ses origines et qu'il n'a rien oublié. Il n'a pas oublié le petit métallo qu'il était. Alors, pour retrouver ses origines, pour retrouver cette première joie de vivre, la première chanson que je vous demanderai, Yves, de chanter, c'est La Grande Cité, puisqu'elle elle personnifie...
Allons-y, allons-y.
Je suis né dans la cité qui enfante les usines, là où des hommes turbinent toute une vie sans s'arrêter, avec leur haute cheminée qui s'élance vers le ciel comme pour cracher leur fumée en des nuages artificiels et dans le bruit des sirènes. Des hommes vont, des hommes viennent, c'est la grande ville qui rugit, c'est la grande ville qui surgit. Comme c'est drôle, ces gens qui marchent dans la rue. Comme c'est drôle, la vie perdue dans la cohue. La sérénade défauchée monte comme une mélopée. La sérénade des gens bien et puis de ceux qui ne sont pas bien. Et moi, je les regarde vivre. Et je trouve ça drôle. Juste au bout de la cité, on ne voit plus les usines, on ne voit que la fumée des bateaux et leurs machines. Il y a la grue géante qui déquait jusqu'au bateau, avec sa marche obsédante s'amuse à cracher dans l'eau. On dirait une drôle de fête où se promène la tempête et le bon Dieu qui est là-haut doit trouver ça rigolo. Comme c'est drôle ces gens qui marchent dans la rue. Comme c'est drôle la vie perdue dans la cohue, la sérénade défauchée monte comme une mélopée, la sérénade des gens bien et puis de ceux qui ne sont pas bien. Et moi, je les regarde vivre. Ça drôle. Mais il y a dans la cité une fille à la peau douce, à la vague comme je te pousse. Une fille toujours mal peignée, elle a sa robe déchirée, mais j'ai trouvé dans ses yeux un bout de ciel qui s'est égaré, qui n'appartient qu'à nous deux. Je ne vois plus les usines, je n'entends plus les machines, qui donc se dressent sur la cité. C'est l'amour et sa liberté. Comme c'est drôle, un cœur qui marche dans la rue. Comme c'est drôle, un cœur perdu dans la cohue. La sérénade de l'amour, la sérénade d'être toujours, monte, monte sur la cité pour lui chanter sa mélopée. Et moi, je suis là pour la suivre. Et je trouve ça drôle.
Rassurez-vous, il ne chantera pas que celle-là.
Puisque vous viviez à Marseille, comment le midi intervenait-il dans votre joie de vivre, Yves Montand?
Les environs de Marseille, par exemple, sont très agréables, très
sympas. Jouer à la pétanque?
Oui, jouer à la pétanque, oui, jouer à la pétanque.
Comment puis, vous dites ça?
Je dis maintenant à la pétanque.
Ah bon? Et avant, comment vous disiez ça?
Oh, mais autrefois, je disais à la pétanque.
Ah oui. Voilà. Oh, c'est pas trop grave, alors.
Non, c'est pas grave. D'ailleurs, je dois vous dire une chose. C'est pas que je veux renier que je viens de Marseille, c'est pas ça. J'ai essayé de perdre un peu l'accent marseillais. Je crois que je suis un petit peu arrivé, je ne sais
pas. Ah oui,
j'ai
tout à fait arrivé, tout à fait.
C'est très bien, c'est très bien. À part les os.
Oui, les os, il y a autre chose qui va pas. Mais enfin, j'ai essayé parce que, par exemple, un grand monsieur comme M. Fernandel, par exemple, ou Rému, ils avaient campé leur personnage là-dessus.
Oui, puis enfin, l'accent de Marseille était pris. Fallait pas prendre celui de Paris parce qu'il était pris aussi par Chevalier.
Oui,
alors
pas,
ça allait s'arrêter entre les deux, voilà.
Oui, c'est ça.
Et ça fait même pas l'accent lyonnais, allez donc comprendre comment il a fait.
Je sais pas non plus.
Mais tout de même, vous avez donc, on a cité quelques noms là, on a cité Chevalier, on a cité Fernandel, on pourrait citer pour notre génération Trenet également. Et ces gens-là donc vous ont influencé, j'imagine.
Eh bien oui, ils m'ont influencé énormément parce que, voilà, au départ je n'aimais pas du tout chanter.
Ouais.
Ça, c'est vrai. Je n'aimais pas du tout ça, j'aimais bien aller au cinéma. Mais je n'aimais pas du tout chanter. J'aimais beaucoup Maurice Chevalier, j'aimais les girls. Dans les environs de Marseille, il y a beaucoup de soirées musicales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soirées musicales, des cafcons. Et ça, je trouve que c'est particulier dans le midi. Il n'y a pas ça, je trouve, ici, aux environs de Paris, ou même à Lyon ou autre part. C'est-à-dire que le samedi soir, eh ben, les gens aiment bien aller aux cafcons dans un bistrot,
ou
dans une petite salle.
Ça recommence un petit peu, je crois.
Ah oui, ça repart, ça. Bon, et alors, dans ces endroits, il y avait des chanteurs qui chantaient, bien sûr. Et je me suis dit, un soir, combien vous êtes payé pour chanter là-dessus? Alors, ils m'ont dit, oh, ça dépend, ça, des 50 francs, des 100 francs, et la vedette, elle a 500 francs. Ah oui. Alors moi, je me suis dit, 50 francs, c'est peut-être pas mal pour m'acheter les cigarettes de la semaine.
Ouais.
Mais je n'aimais pas du tout ce boulot-là.
Il aimait les cigarettes.
Voilà. Voilà. Comme
et
quoi
puis,
le tabac conduit
et
autour
puis,
de gens.
Oui. Et puis après, il est sorti Trenet en 1938. Vous vous souvenez de Trenet quand il est sorti ben, tout le monde chantait les chansons de Trenet. Par exemple, aussi bien le métallo que les nobinards, que n'importe qui, tout le monde chantait les chansons de Trenet parce que les chansons de Trenet étaient très belles. J'ai commencé à prendre une chanson de Trenet et j'ai eu le choc, c'est-à-dire que j'ai eu envie de chanter. Je ne savais pas ce que j'allais faire, j'avais envie de chanter. Et alors, je suis allé prendre des leçons, j'ai appris, enfin, comme ça. Et puis, j'ai demandé à un gars qui organisait les galas, c'était un marchand de berlingots. Ah ouais? Alors, je lui ai dit, voilà, je voudrais bien chanter. Alors, il m'a dit, écoute, tu n'as qu'à mettre un numéro bien au point, et puis tu viendras me trouver, je te ferai chanter. Alors, j'ai mis trois chansons au point. Il y avait une chanson de Charles Trenet, il y a une chanson de Chevalier, et au milieu, il y avait l'imitation de Fernandel aussi, et je terminais avec Boum, de Charles Trenet.
Voilà. Vous savez le faire encore, ça?
Oh oui.
Ben, pas très bien, je crois pas.
Charles Trenet, ça le fait encore?
Non, je sais pas, non.
Fernandel, ça le fait?
Chevalier.
Chevalier, si
vous... Bah, j'ai un petit chapeau, là, Yves.
Oui.
Oh, c'est
avec le chapeau.
Oui.
Hein?
Enfin, c'est vous qui l'aurez voulu.
Oui, oui, oui. Bien. On en prend la responsabilité. Bon.
Alors, je vais essayer de vous chanter une chanson que j'ai chantée à ce moment-là et qui s'intitulait « Ah, si vous connaissiez ma poule ». Remarquez que moi, j'avais l'accent du Midi. Je croyais imiter Maurice Chevalier. Attention, hein. C'est tout à fait... Bon. Alors, c'est pour ma poule. Ah, si vous connaissiez ma poule, vous en perdriez tous la boule. Ces petits seins pervers qui pointent au travers de son pullover vous mettent la tête à l'envers. Elle a des jambes faites moule et des cheveux fous frisés partout. Et tout. Si vous la voyez, vous me la chipperiez. Oh, si vous connaissiez ma poule.
Comment avez-vous découvert vraiment le music hall?
Oui, et plus exactement, qui vous a livré les secrets?
Vous savez, les secrets du music hall, ça c'est comme le théâtre, comme la télévision, là, je sais pas, là. Qu'est-ce qui vous a délivré votre secret à vous?
D'abord, je sais pas... Parce que la, terrible, la différence, c'est qu'à la télévision, il n'y en avait pas avant, alors faut le découvrir.
Oui, c'est vrai. Je crois que les gens... il leur arrive un moment dans la vie... L'envie de faire quelque chose, puis on ne sait pas très bien pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'avais pas envie de chanter, et c'était vrai. Je n'aimais pas du tout les types qui chantaient, puis ça me cassait les pieds, ça ne m'intéressait pas, quoi. Il y a des gens comme ça.
Ouais.
Bon. Et puis, j'ai reçu le choc, je vous ai dit, avec le traîner.
Ouais.
Et alors, j'ai pris les chansons, et évidemment, dès que j'ai apparu sur une scène, il y a ce fameux choc que l'on ressent et qui est très difficile à expliquer. C'est un mélange de trac, d'exhibitionnisme, de tas de choses. Remarquez, j'ai dit exhibitionniste. Je veux dire qu'on est tous plus ou moins. Mais ceci dit, ça ne vous empêche pas de rester quand même, d'essayer de rester quand même un homme ou une femme normale, quoi. Ça existe, ça aussi. Par exemple, Madame Vivian Lee et puis Monsieur Laurence Olivier, par exemple, pour prendre ces acteurs-là anglais, sont de très grands acteurs. Ça n'empêche pas que c'est des hommes, c'est un homme et une femme parfaitement chouettes et normaux, quoi. Et puis, vous avez ça également en France. Je ne veux pas tous les citer parce que ça...
On a choisi deux Anglais pour ne vexer aucun Français, peur d'en oublier.
Hein? Oui, je ne sais pas, enfin, j'ai dit ça comme ça parce que je trouve que c'est vrai.
Oui, hein? C'est vrai. Mais alors, il y a une chose que je voudrais... Non, ben, je sais pourquoi vous disiez ça, mais je vais... Alors, chercher le témoin, moi, de cette époque-là. Le témoin de cette époque-là, quand vous avez joué la revue à Marseille, et je vais quand même voir l'homme qui vous a donné quelques-uns des secrets du métier.
Ah, c'est
et
vrai,
qui
ça.
Va nous dire comment était Yves Montand.
Ah, c'est vrai.
Et quelles étaient les qualités... moins évidente peut-être à cette époque-là qu'aujourd'hui, d'Yves Montand et ses camarades d'alors, qui est maintenant à Paris, lui aussi, c'est Harry Mack. Harry Mack va jouer bientôt avec Bernard Blier la prochaine pièce d'Henri Bernstein. On le voit en ce moment dans un film, la dernière fois que je l'ai vu, c'est dans le film avec Jean Richard, La Belle Mentalité. Mais ce que je veux demander à Harry Mack, c'est... Le souvenir précis qu'il a gardé d'Yves Montand quand ils ont joué ensemble pour la première fois cette revue à Marseille.
Ah! Tant pis, hein?
Oui, vas-y, quoi.
Je veux dire, la première fois que j'ai vu Yves, moi, c'était à Marseille, dans un music-hall en plein air. Il faisait son tour de chant, là. Je dois dire, il avait un succès formidable. Moi-même, j'applaudissais à tout rompre, mais très sincèrement, j'avais pas compris un mot de qui chantait. Ah oui? Il avait d'abord un accent terrible, il avait une diction pas très bonne, hein,
C'était très mauvais.
Il avait un petit défaut de prononciation, enfin il avait beaucoup de choses contre lui, je dois dire. Mais enfin, malgré tout, c'était formidable, on applaudissait quand même, c'était extraordinaire. Puis alors, à quelques temps de là, l'impresario Émile Audifred, malheureusement disparu depuis, je dis malheureusement parce que c'était un grand impresario et un homme de cœur, ce qui est quelque chose.
Et un défenseur du musical.
Oui, oui. Audifred m'avait demandé de jouer dans une revue et Yves était la vedette. Alors là, je dois dire, il avait fait des affiches pour présenter Yves Montand, qui était, il faut le dire, à ce moment-là, absolument inconnu. Personne n'avait jamais entendu parler d'Yves Montand.
Oui,
et il avait fait, Audifred avait fait des affiches formidables. Il avait mis, nous vous avons présenté Maurice Chevalier.
En gros, ça.
Ah, en gros, oui. Nous avons présenté Maurice Chevalier. Nous vous avons présenté Joséphine Baker. Nous vous avons présenté Tino Rossi. Nous avons présenté Gary Cooper, oui. Nous avons présenté Miss Tinguette.
Alors j'imagine qu'il mettait nous avons présenté en tout petit aussi.
Nous avons présenté.
C'était que les noms très grands.
Oui. Et ce soir, nous vous présenterons, alors gros comme ça, Yves Montand. Ben, hein,
c'est vrai.
Fallait tenir le coup quand même avec. Alors, quand on vous annonce gros comme ça, c'est déjà terrible au départ. À la fois, ça marchait très bien. Ça, il faut dire qu'en tournée avec Yves Montand, il fallait subir son tour de chant toute la journée. Ah oui, dans le train, au restaurant, dans la rue, à l'hôtel. Comme on dormait pas beaucoup, ça tombait bien. Enfin, oui, alors, on voyageait toute la journée. Il faut dire, on faisait une ville par jour environ. Hein.
Oui.
On faisait les grandes villes, mais on faisait surtout des petits patelins.
Oui.
Ça, oui. Et tout petit, même.
Tout ce qu'il y a
de
plus petit.
Des petits théâtres comme ça.
Ah oui, c'est quoi.
Oui, un soir, nous étions partis après le spectacle. Pour aller à Avignon. Et nous prenons le train de nuit. Évidemment, on voyageait toujours à cette époque-là. Pendant la guerre, on voyageait debout. Hein? On voyageait debout.
On se demande ce qu'étaient devenus les places assises à
oui,
ce moment-là.
Je crois, en trois mois de temps de tournée, on a peut-être voyagé deux fois assis. Nous montons dans le train qui était archi plein. Et nous trouvons deux places dans les lavabos.
Ouais.
C'est tout ce qu'il y avait. Il fallait bien s'en contenter. On s'assoit sur nos valises. Mais une peur nous prend. C'est de nous endormir avant d'arriver à Avignon. Et Yves me dit... Voilà, pour nous empêcher de dormir, il y a environ 2-3 heures de trajet, nous allons, à nous deux, jouer toute la revue.
Oh ouais. Vous l'avez fait.
Oui, oui, oui. Évidemment, il connaissait la revue par cœur, moi aussi, bien sûr. Alors, nous avons joué tous les deux dans les lavabos, assis sur nos pieds. Toute la revue.
Oui, les girls, tout.
Les
tout,
girls,
tout,
oui, oui. L'orchestre, on faisait l'orchestre.
Tout. Tan, 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 tan,
oui, tan, oui. Tan, après ça, les chansons, elle a joué tous les rôles.
Oui.
Des hommes, des femmes. Et je me souviens que le contrôleur est entré à un moment où je disais à Yves, évidemment, il me donnait les répliques de la femme, je disais à Yves, « Oh, chérie, que t'es belle. » C'est pas... ce qu'a pensé le contrôleur, en fait.
Il reste un témoignage de cette époque, parce qu'à cette époque-là, Yves chantait les chansons de cow-boy, et oui. Vous en aviez écrit une pour lui. Je pense que ça vous fera plaisir,
ah oui.
Monsieur Harry Max,
oui, oui.
De retrouver cette époque en écoutant Yves chanter votre chanson. Alors il va changer de chapeau pour
je
ça.
Je la trouve pas très bonne, ma chanson, je veux dire, mais enfin, je vais rien.
J'y vais alors, hein.
Ah oui, oui, oui.
Laissez-moi retrouver ma prairie, retrouver les vastes horizons, le galop endiablé des noirs troupeaux en furie, poursuivis par de fougueux garçons. Rendez-moi les copains qui m'attendent, Oncle Joe ou Jimmy le tatoué. Je voudrais les revoir avant qu'un jour on les pende ou bien que le shérif les ait tués. Au saloon, pas de groom à la porte, c'est du pied qu'on pousse le battant. Hein, le revolver au poing, rien ne vaut la manière forte pour se faire respecter en entrant. J'aurais pu chanter sur ma guitare les exploits de tous les gars de l'Ouest. Laissez-moi retrouver mes rodéos, mes bagarres. Laissez-moi retrouver mon Far West.
Arrivé à Paris, qui avez-vous rencontré?
Eh bien, j'ai rencontré un très bon camarade qui s'appelle Henri Crolla et qui est là, qui joue de la guitare.
Ça fait combien de temps que vous travaillez avec Crolla?
Oh, ben maintenant, ça va faire 6 ans, hein, 7 ans. Hein? Oui, c'est... ça fait à peu près 7 ans maintenant.
Et ces autres messieurs, là?
Ah, oh, les autres brigands, là, ça fait pareil.
Freddy Balta.
Oui, Freddy Balta. Emmanuel Soudier. À la basse. Et Paravoshi de Bagnolet à la batterie.
Et Bob Castel. Alors, le... Pour... je pense, Yves, puisque ces messieurs font partie de votre joie de vivre, on va leur demander de jouer un morceau tous les 5.
Votre joie de vivre de votre métier.
Oui, autrement dit, nous aimerions bien savoir, Yves, comment vous concevez ce métier qui fait que vous le, le pratiquer d'une façon un peu différente de beaucoup de gens, qu'on vous voit peu souvent dans les mêmes villes et qu'en ce moment, on vous revoit à Paris après 3 ans d'absence.
Eh bien, bien que je ne sois pas un philanthrope, je fais ce métier parce que je l'aime énormément et que je le fais quand je pense que ce que j'ai mis au point est en place. On se trompe d'ailleurs, c'est pas toujours vrai. Et alors, j'essaie d'apporter, quand je reste si longtemps absent de Paris, par exemple, où ça fait 3 ans que je ne suis pas passé à Paris, d'essayer d'apporter quelque chose de neuf. Alors ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de rodage, des tournées, il faut aller en province, il faut aller partout. Et quand on l'a bien rodé, bien essayé partout, alors on le présente à Paris. Voilà.
Mais en province, qu'est-ce que vous appelez la province?
C'est très beau.
Pour vous, est-ce que c'est Lyon, Marseille, Bordeaux, comme d'habitude ou bien...
Ah non, je veux dire qu'il faut faire attention avec ce mot province, on a toujours tendance à y donner un petit côté péjoratif ou un petit côté comme ça, pas du tout. Les gens de Lyon, de Marseille ou de Bordeaux, de Toulouse...
C'est comme Paris.
Eh oui,
il n'y a pas une grande différence. Et encore, je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mérite parce qu'à Paris, il y a beaucoup plus de théâtres, de spectacles, et donc le public parisien, s'il avait un petit peu plus de moyens... Il pourrait aller au spectacle un peu plus souvent, n'est-ce pas? Et alors il a la possibilité
d'y aller,
c'est ça.
Oui.
Tandis qu'en province, c'est beaucoup plus difficile, ils ont un théâtre ou deux maximum. Et puis des fois, les tournées ne passent pas non plus. Donc ce que j'appelle la province, ce sont les villes de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 habitants, alors qu'eux n'ont strictement rien, sinon que 2 ou 3 cinémas et c'est tout, vous comprenez?
Oui.
Alors il faut aller dans ces endroits-là également et rôder son tour de champ, comme on devrait en principe, les auteurs de théâtre essayaient, et les acteurs également, s'ils pouvaient, essayer leur pièce en tournée et en province avant de la présenter à Paris.
Mais non pas seulement l'essayer à Bruxelles.
Et oui, ou Bruxelles ou Lyon, parce que c'est pas toujours une optique très juste. Quoi.
C'est ça. Pour en revenir aux camarades que vous avez rencontrés, vous nous avez parlé tout à l'heure de Crolin et de ses camarades musiciens, mais il y a également un autre jeune monsieur que vous avez découvert et que vous avez lancé et qui a grimpé avec vous dans la chanson.
Oui.
Qui est Francis Lemarque. Francis Lemarque avec sa guitare. Dans une chanson que Yves Montand n'a jamais chantée, mais qui s'appelle Le Tueur Affamé.
Oui.
Sur le coup de midi et demi, Johnny abattit Tony, sans histoire. Il vit dans les boyaux, 12 balles de son rigolo, et au revoir. La faim tiraillait Johnny, mais il n'avait pas fini son boulot, car avant d'aller manger, il avait un compte à régler dans le quartier. Johnny s'en alla plus loin, il était 1h20, dans un coin, il attendit Alfredo et lui enfonça dans le dos. Son couteau. Ce gars-là y avait fait du tort quand ils étaient dans le Grand Nord, chercheurs d'or. Il se dit, je peux aller bouffer, maintenant son compte est réglé. Il est mort. Mince, déjà 1h15, j'allais oublier le rancard à la gare que m'a donné le gros Dédé pour aller exécuter une pépée. Qui nous a vendu salement au flic qui était son amant. En avant! Tant pis pour la boustifaille, allons buter de la flicaille. C'est le travail. À 3h, c'était fini. La poupée était oxy, ze, et Johnny, ze. Et puisque je suis lancé, ben j'ai plus qu'à continuer, sans croquer. J'ai noté sur mon calepin, à 4h chaussée d'Antin, chez Justin. Y a un coup fumant à faire, faut zigouiller une rombière. Millionnaire, bon Dieu, tu parles d'une journée, je crois que je l'aurais pas volé, mon dîner. Je fais pas d'heures supplémentaires, à 6h j'en joue un air, j'en ai marre. Je m'en vais retrouver ma souris qui m'attend dans notre gourbie à Passy. Avec ce que j'ai dans les poches, on va se payer une bamboche pas trop moche. En rentrant dîner chez lui, il connut d'autres ennuis ce jour-là. Sa souris qu'il aimait tant avait suivi son amant, le grand Fernand. De quoi? De quoi? Fille de Johnny en colère. Un mec comme ça, un gangster, en misère. Je te vais payer à chacun une redingote en sapin. Avant-demain, la 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 toi, la toi, la la ta toi, la toi, la la toi, la toi, la la ta toi. Il la tua une heure plus tard, et ça lui donna le cafard, mais trop tard. Il pleurait, tu m'as fait souffrir, dans mes bras tu pourras plus revenir, te blottir. Mais sa montre marquait 10 heures, il se dit je dois reprendre mon labeur, de malheur. C'est pas ce soir que je vais bouffer, j'ai encore un type à tuer. Quel métier, tarara toi, quel sale métier.
Je pense que tout cela va s'arranger très bien parce que si Francis Lemarque a chanté à Yves Montand une chanson que Yves Montand n'a pas chantée, Yves Montand, lui, va chanter à Francis Lemarque une chanson que Francis Lemarque a écrite pour lui qui s'appelle « Quand un soldat ». Ah ben, pourquoi maintenant ?
Tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en bat en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu, à la guerre, c'est un drôle de petit jeu, qui ne va guère aux amoureux, pourtant c'est presque toujours, quand revient l'été, qu'il faut s'en aller, le ciel regarde partir, ceux qui vont mourir, au pas qu'à danser, des hommes, il en faut toujours. Car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des pleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Et la joie de vivre par les copains.
Ah ben oui, les copains qu'on aime, ouais. et dont on aime le talent. J'ai plus leur truc comme ça, quoi. Je dirais d'abord François Perrier.
François Perrier, il est là, François.
François.
Voilà.
Eh bien, pour la joie de vivre d'Yves Montand, il est normal de lui offrir un souvenir de mes débuts, puisqu'il nous a raconté les siens. Alors, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Elle n'a qu'un mérite, c'est d'être vraie. Quand j'étais élève au conservatoire, vous savez que quand on est élève au conservatoire, on a le droit de faire de la figuration au théâtre français et des petits cachetons en province. Ce que nous appelons cacheton, je crois que Yves vous a affranchi tout à l'heure. Nous appelons cacheton une somme dérisoire pour laquelle nous faisons un travail admirable. Donc je faisais des petits cachetons en province. Dire que le travail était admirable, c'est peut-être un peu exagéré. C'est un jour, dans les couloirs, j'avais rencontré un pensionnaire de la Comédie française qui m'avait dit très gentiment « Est-ce que tu es libre samedi ?» Ce pensionnaire, d'ailleurs, c'était assez curieux, devenait sociétaire dès qu'il était en tournée. Du moins sur les affiches, mais enfin, c'était purement momentané. Il me dit « Est-ce que tu es libre samedi et dimanche ? On va jouer Cyrano à Saint-Quentin. » Je lui dis « Mais bien sûr, 40 francs matinée, 40 francs soirée. » Ah, c'était il y a un moment, noté, mais enfin, c'était quand même pas le Pérou, c'était pas. Et il me dit « Alors, rendez-vous à la gare du Nord, telle heure, samedi soir. » Je te donnerai ton rôle dans le train. J'en déduis que je ne devais pas avoir un rôle très important, étant donné que je pouvais l'apprendre pendant le voyage. J'arrive et sur le quai de la gare, je constate que nous étions 13. Ce qui prouve d'abord que nous n'étions pas superstitieux, et secondo, qu'on n'allait pas chômer, car je ne sais pas si vous connaissez Cyrano de Bergerac, mais pour jouer ça à 13, faut pas s'endormir. Il y a quelques 45 personnages, et à part Cyrano, qui vraiment ne peut jouer que Cyrano, ça on l'a vérifié, il n'y a rien à faire, il ne peut pas jouer deux choses, tous les autres acteurs jouaient plusieurs rôles. Et moi, je jouais les Gascons. Les Gascons, ils sont 20. Mais ça, ça n'est rien. C'est qu'ils sont tous en scène en même temps. Évidemment, il y a là un dédoublement de la personnalité assez rare. Et voilà comment nous procédions. Au lieu de dire, puisque votre compagnie est maintenant au complet, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît, Carbon de Casteljaloux disait tout simplement, quoique votre compagnie ne soit pas au complet, tu parles, veuillez la présenter au comte, s'il vous plaît. Et voilà ce qui m'est arrivé. Toute la compagnie représentée par ma modeste personne. Je m'étais figé dans un garde-à-vous impeccable sur un petit escalier qui était dans le décor et qui était, vous savez, comme ces échelles de meunier en France, c'est-à-dire des escaliers à claire-voie. Et on m'avait doté, probablement pour me donner un air un peu plus martial, d'éperons, comme Dieu merci, je n'en ai jamais retrouvé dans ma carrière. Des éperons, c'était même pas des éperons de cow-boy. Non. Oh, mais non, ça faisait ça, de diamètre. C'est incroyable. Et je ne sais pas quel est l'enfant de salaud, il n'y a pas d'autre mot, qui les avait aiguisés. Je me suis coincé mon éperon droit dans la marche supérieure et mon éperon gauche dans la marche inférieure. Et au moment où tous les Gascons en ma personne auraient dû se retirer, je n'ai pas pu partir. Et c'était très gênant car j'ai assisté à des tas de scènes où je n'aurais pas dû être présent. Alors vous savez, je tapotais la toile, je caressais la rampe. L'air du type qui n'écoute pas. Et quand enfin, à la fin du rideau, sur de modestes applaudissements, je dois dire qu'il ne m'était pas destiné, le rideau est tombé à la fin de l'acte, les machinistes ont défait les deux marches et m'ont laissé. Alors j'ai couru vers le directeur de la tournée, qui d'ailleurs était ce pensionnaire sociétaire, et je lui ai dit, écoutez, pour lui expliquer, parce qu'il ne pouvait ne pas avoir compris, je lui ai dit, écoutez, c'est épouvantable, je ne pouvais pas sortir, j'étais coincé, je m'étais bloqué. Et il m'a simplement répondu, oh, au point où t'en étais, il valait mieux que tu restes, il serait demandé pourquoi tu foutais le camp.
Autre copain.
Alors j'ai l'autre copain qui s'appelle Raymond Lebovitch.
Ouais, qu'est-ce qu'il fait lui?
Il est dentiste.
Oh, c'est pas drôle ça.
Mais à part ça.
Mais à part ça, il adore, il a un chouette truc, il a une chorale qui est très bien.
Hmm?
Et il chante et avec ses camarades à lui, et puis lui, d'ailleurs ils sont là, on va les entendre.
La chorale des amis de la nature, il s'appelle.
Exactement.
Ah voilà.
Mais pourquoi,
avons maintenant abandonné la joie de vivre en famille, mais nous avons, pour parler de la joie de vivre en famille, un spécialiste en la personne de...
Papa, maman, l'abonnez-moi. Je suis de nationalité française et bien qu'étant né à Paris, maman est de souche bordelaise, papa est natif du Berry. Et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, l'abonnez-moi. Des gens comme nous, il y en a des tas. On achète à tempérament. Papa, moi, l'abonné, maman. L'été, on va au centre de l'Aune. Papa, maman, moi, quand on vient, il nous reste 20 francs. Papa, là, j'ai mis, il nous reste 20 francs, mais faut pas charrier quand même. Il nous reste pas tout à fait 20 francs. Le père l'amoureux est fonctionnaire, maman et fille d'agriculteur. Moi j'ai le brevet élémentaire. Là j'ai mis brevet élémentaire parce que le certificat d'études ça faisait trop long. Je pouvais pas arriver à me l'enfiler là-dedans. J'ai dit on va pas. Remarquez, je suis quand même sorti d'une grande école. Hein. À coup de pompe, c'est entendu, mais enfin. Un grand oncle et pas petite sœur, et vraiment de s'appeler l'amoureux, pour un garçon c'est merveilleux. Papa, maman, l'abonnez-moi. On a une radio qui marche pas. Oui, oui, mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien, viens. Un appareil entièrement aérodynamique. Au début, on pouvait pas trouver le devant. Ça, pendant 8 jours, papa, il photographiait ses boutons de gilet, comme ça. La seule fois qu'il l'a mis dans le bon sens, il y a un taureau qui arrivait derrière. Mais... papa, il disait, bougez pas, je fais de la pause. Maman, il a dit, fais de l'instantané, faut qu'on s'en aille. On a pas... le samedi, on va au cinéma. Papa, maman, l'abonnez-moi. Ou dans notre jardin de noisilles grands. Parce que papa, il faut qu'il bricole tout le temps. Tout le temps, il bricole. Je vois le dernier ramonage qu'on a fait chez nous, c'est papa qui l'a fait. Les ramoneurs sont pas venus. Les pompiers, si, pour dégager papa, mais ça fait. Je vois, nous, on habite au 3e. L'autre fois, on a un tableau qui s'est décroché, là, un tableau de mètre. Mètre 20, 25. Papa, on lui a donné un clou, pouf, un quart d'heure après, ça y était. On était descendu d'un étage. En ce moment, à la maison, il met de l'huile dans les serrures pour qu'elles marchent. Puis quand il met de l'huile dans une serrure, c'est pas bon jouer. Une serrure, 2 litres d'huile. Pff, hein? C'est comme il dit, une serrure, c'est pas un moteur. Là-dedans, il n'y a pas de jauge. Hein? De jauge pour jauger. Non, il n'a rien compris, votre bonhomme. Hein, que... vous êtes avec monsieur, madame? Pauvre femme, enfin, alors... Mais remarquez que 2 litres d'huile dans une serrure, ça fait trop. Ça fait 1 demi-litre dans la serrure, 1,5 litre par terre. Mais alors, le temps qu'on gagne avec ça, c'est formidable. Entre 2 portes, quand on glisse dans le bon sens, on fait 5 mètres d'un coup. Moi, j'ai vu papa traverser toute la salle à manger sur un pied avec un plat de lentilles. Plat de lentilles, il le tenait à l'envers, mais enfin... Depuis qu'il a graissé la serrure qui donne sur le palier, c'est pas croyable. Avant, pour descendre, il fallait 5 minutes. Maintenant, en 3 secondes, hop, l'affaire est bâclée. Oh, l'autre jour, on était en train de déjeuner. Là, quelqu'un qui sonne. Alors, on a couru pour aller ouvrir. Le temps qu'on ouvre la porte, pff, il était déjà reparti. On a vu que 2 pieds. On n'a pas su qui c'était. On croit que c'est Durand à cause de l'odeur, mais sans ça, on... Un quart d'heure après, c'était sa belle-mère. Vous avez pas vu mon... La concierge est montée, dit, envoyez pas vos saloperies dans mes escaliers. Il y a 2 mois, on a eu des ennuis à la maison, là, avec la serrure de la porte des chaudières. Oui, celle-là, justement. Papa, il dit comment? Il dit, elle marche pas, cette porte-là. Il dit, on va s'enfermer tous les deux dans les chagrins. Il dit, et moi, je vais te faire voir comment... 3 jours, on est resté dedans. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour se distraire, là-dedans? Y a rien. On tirait bien la chaîne de temps en temps. On se lasse, c'est humain, ça. Vous me direz, il y a de la lecture. Mais c'est toujours pareil, il y en a, ils prennent des pages au hasard, après, on peut plus suivre. Nous, on avait mis un roman, nous, avec une couverture en carton épaisse comme le pouce. La couverture, on sait même pas ce qu'elle est devenue. Il y en a, je vous jure, sont courageuses avec... Papa, maman, l'abonnez-moi. Quand on est gêné en fin de mois, on pense qu'il y a des millions de gens qui ont sûrement les mêmes embêtements. Là, j'ai mis embêtement, mais à la maison, on a un autre mot. Et cette façon de voir pauvre qu'en somme. Papa, maman, moi et la bonne, on est bien français 100%. Papa, moi, l'abonné, maman.
continuons la série des copains. Autre copain.
Ah ben maintenant, il y a Bernard Billet.
Ah oui, mais alors là, là, je crois qu'on va faire quelque chose d'assez particulier. Bernard Billet, il a un talent, qu'il a d'ailleurs déjà exprimé sur cette scène quand nous avons évoqué sa propre joie de vivre. Et comme nous sommes dans une émission où la chanson a tous les droits, eh bien, je crois que nous allons le faire chanter,
oh
Bernard
oui.
Blier.
Oui. Oh oui.
Bernard Blier. Oui. Oui.
Non, je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que ce petit récital vocal est en sorte une protestation des comédiens contre les chanteurs qui encombrent le cinéma et les théâtres. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de chanteurs qui viennent au cinéma et au théâtre, et je voudrais prouver aujourd'hui que les gens de théâtre et de cinéma peuvent aller à la chanson. Attendez, je voudrais simplement vous placer en quelques mots cette modeste chanson que je vais vous interpréter. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'idylle philoménale de M. Rivedoux. Quand j'ai croisé la Matine, c'était par un beau matin. J'allais acheter des bottines et lui trouvais très beau teint. Nous partîmes en limousine visiter le Limousin. Après, comme on le devine, ma petite femme, elle devint. Ma concierge qui est amène, tous les matins me serre la main. Même qu'au moment des étrennes, dans ses bras elle m'étreint. Cela m'attire des scènes que je supporte à dessein. Pour ne pas que ma Philomène un beau jour ne me file aux mains. Son manteau de ballerine, gentiment lui ballerin. Sa robe de percaline lui vient de son père câlin. Pendant que je me surmène dans un travail surhumain, elle arpente l'avenue du Maine en tenant son fichu d'une main. Celui-là est très spécial, vous allez voir. Là, il y a tout de même une certaine portée intellectuelle dans cette portée. Comme j'ai un chien et une chienne qui me viennent d'un Autrichien, ma petite femme qui est vosgienne me dit pour élever vos chiens, vous aurez beaucoup de peine car au pays transalpin, je vais retrouver une Helvétienne qui a jamais pu élever le sien.
Je crois maintenant rendez la politesse à ses premiers copains que nous venons de voir.
Tout de suite.
Alors, je vais vous chanter une chanson toute nouvelle de Jacques Prévert, mise en musique par Henri Crolla. La chanson a pour titre « Sanguine, joli fruit ». C'est sur terrain. Et tout l'orage heureux de ton corps amoureux et soudain, et ta robe en tombant sur le parquet ciré n'a pas fait plus de bruit
qu'une écorce d'orange tombant sur un tapis. Mais sous nos pieds, ces petits boutons de nacre craquaient comme des pépins. Sanguine, joli fruit, la pointe de ton sein a tracé tendrement la ligne de ma chance dans le creux de ma main. Chanson nouvelle de Jacques Mareuil et Georges Lieferman. Voici maintenant Le chef d'orchestre est amoureux. La cinquième symphonie, les gens du monde entier et surtout les gens du monde s'exclamaient, se pâmaient et tombaient dans les pom 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 pom. Maestro avait du génie, ce n'était pas le cas de la belle Eugénie qui ce soir-là faisait son entrée dans le monde et bâillait, s'ennuyait en écoutant les pom 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 pom. Quand le concert fut terminé, l'un à l'autre ils furent présentés. Sitôt il en fut amoureux, elle avait de si jolis yeux. Ils se revirent bien souvent, mais ce qui faisait son tourment, c'est qu'au crépuscule des dieux, elle préférait sur les flots bleus. Comment pourrait-il émouvoir celle qui faisait son désespoir et qui se refusait à lui? L'idée lui en vint une nuit. 6 mois plus tard, Covent Garden, après 2 pages de Beethoven, on vit Eugénie qui pleurait tandis que l'orchestre jouait. Ce fut un scandale inouï, on en parle encore aujourd'hui. Il s'en fiche bien car désormais il a le cœur de celle qu'il aimait. Dans une brasserie de Saint-Quentin, à la tête de 6 musiciens, il jouera chaque soir de sa vie pour les jolis yeux de génie. Énormément, c'est Pierre Brasseur.
Ça y est. Est-ce que je t'ai raconté une histoire qui nous est arrivée? L'histoire de Malou. Tu te rappelles pas?
Non.
Si on s'est entrevu entre les portes de la nuit, comme ça, tu te rappelles pas?
Ah oui, oui, oui.
Viens à côté de moi, Spade, viens, tu vas jouer la jeune première. Ah, si, si, si. Voilà. Ben voilà comment ça se passe. Il y avait Madame Nathalie Nattier, toi qui était la plus belle femme du monde dans le film. Alors, attends.
Toi, tu jouais
le jeune premier. Ça, c'est la caméra. Voilà, ça. Il y a Carnet qui est là. Hé, hey, Carnet! Il est là, oui. Carnet, c'est le metteur en scène. Voilà, il est là, Carnet est là, près de la caméra. Et moi, j'arrive comme une noix, c'est-à-dire très digne. Je sors de la voiture, j'ai un revolver, naturellement. C'est où je reçois des claques ou j'ai un revolver. Enfin, c'est... Là, j'ai un revolver. Bon, alors, ils sont là, tous les deux, enfin, ils vont s'embrasser. Ah oui, ça. Ah, mais ça, c'est le truc, ça. Ils vont s'embrasser sur la bouche, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas important que vous êtes maquillés, ça. Enfin, attends. Alors, j'arrive, et Carnet, là. Et je dois crier, Malou! Et à ce moment-là, ils me voient tous les deux. Mais alors voilà, parce qu'avec Carnet, c'est jamais simple. Il y avait un train qui était passé quelques minutes avant. Alors forcément, du moment qu'un train était passé, il y avait un petit peu de fumée. Et la petite fumée devait passer juste au ras.
Tu te souviens?
Ça, ça a duré une nuit entière. Alors et il n'avait pas passé, d'ailleurs. Mais après, tout d'un coup, on entend quelqu'un. Appelez-moi le directeur de production, il y a du vent. Il y a du vent. Comme s'il pouvait faire quelque chose. Enfin bon. Et alors, voilà, Carnet était là, derrière la caméra. Il guettait la petite fumée au-dessus de la tête de mon père. Et quand il voyait la petite fumée, tout le monde se taisait, c'était épouvantable, un silence religieux. Et il faisait, partez. Et moi, je faisais, Malou. Bon, bon. Alors, ça y est, bon, c'est raté, bon, on recommence. Alors, attention, claquette, bon. La petite fumée, ça y est, ça y est, ça y est. Partez. Malou. Non, elle est encore partie. Tout d'un coup, ça y est, elle est là, la petite fumée. Et il fait, Malou, je suis parti.
Ah oui. Est-il parti de votre joie de vivre?
Eh bien, je dois dire que...
Oui,
parce que... ce mot-là, c'est difficile à dire.
Oui, voilà.
Mansumano!
Oui, Mansumano, voilà. Je suis parti de l'Italie, j'avais 2 ans.
Ouais.
Et je suis retourné en Italie ces derniers temps pour faire un film à sketch.
Ouais.
Avec Blasetti. Et avec comme interprète Daniel Delorme.
et j'ai retrouvé l'endroit où je suis né.
C'est-à-dire vous avez découvert votre joie de vivre au pays natal 32 ans après.
Exactement.
Alors pour parler de ça, on va faire venir le témoin de l'opération, c'est-à-dire Daniel Delorme. Simplement, Daniel, que vous nous racontiez, que vous évoquiez ce qu'était le pays, ce qu'est le pays d'Yves Montand, près de Florence, Montsoumadre, qui est, moi je le connais, c'est un bien joli pays. Et je voudrais que vous nous racontiez comment il a été accueilli là-bas.
Un soir, on était en train de tourner, enfin non, on ne tournait pas, on était dans des fauteuils, on se reposait, on attendait de tourner. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une jeune fille, brune, se précipiter avec des hurlements de sauvage sur Yves, en hurlant. Alors je me suis dit que les admiratrices étaient très très expansives en Italie. Et en réalité, c'était une petite cousine qui, reconnaissant Yves, s'est précipitée sur son vélo, a été chercher tout le village qui était à côté, puisque Montsoumano est tout près de Florence. Et toute la famille d'Yves l'a invitée pour venir à Montsoumano déjeuner.
Ouais, alors, ce déjeuner, combien il y avait de personnes?
Oh, je sais pas, moi, il y avait tout le village qui était là. Il y avait... D'abord, il y avait... La tante, la nièce, la cousine, le je sais pas.
Les journaux italiens disaient qu'il y avait 283 personnes à ce déjeuner.
Ah oui, il y en avait bien 300, oui.
Et tout le village.
Ah oui. J'ai retrouvé un pays que j'avais laissé à 2 ans, que je connaissais pas. Je trouve que la lumière qui est en Toscane, elle se retrouve à Saint-Paul-de-Vence.
Oui.
Par exemple.
Et Aix. Peut-être lumière de Toscane, quand on y réfléchit bien. Florence, c'est la patrie de tous les grands peintres de la Renaissance et de tous les grands sculpteurs de la Renaissance. Et dans le fond... Je pense pas que les Florentins et les Toscans aient été des gens qui étaient plus intelligents ou plus fins que les Romains ou que les Vénitiens. Mais je pense qu'ils avaient du talent autant que les Vénitiens et que les Romains. Mais ce qui les transformait, ce qui leur donnait le génie, c'était la lumière de Toscane. Car lorsqu'on arrive dans votre pays, qu'on arrive en Toscane, soit en arrivant avant la Spezia par le Passo Bracco, soit en y arrivant en venant de Bologne, soit en y arrivant en venant de Rome à Radicof, quand on arrive sur la Toscane, la lumière change. Cette lumière... Elle s'est un tout petit peu promenée aussi dans vos chansons et c'est ce qui fait, ce qui se donne cette espèce de brillant à votre talent. Voilà, je crois que c'est parce que vous êtes toscan aussi.
C'est très gentil tout ça.
Vous m'avez dit que Daniel Delorme participait à votre joie de vivre, familiale alors, sous un autre aspect.
Oui, parce que je dois vous dire une chose, c'est que ma femme, joue du piano.
Ouais.
Elle joue du piano.
Elle vous accompagne, non?
Non.
Joue du piano.
Elle joue du piano, ouais. Elle joue du classique, elle joue, elle a une facilité pour ça, pour jouer du piano. Il y a des gens...
Elle a un don, c'est ça.
Et son mari chante et elle joue du piano.
Le comble de tout ça et la beauté de tout ça, je dois dire très honnêtement, c'est quand, à mes rares moments, je peux passer une soirée chez moi et ma femme joue du piano accompagnée par Daniel Delorme.
Oui, parce que Daniel Delorme a fait ses études au conservatoire en piano.
À quatre mains, vous jouez.
Quatre mains, ouais. Ils font un classique.
Alors, je crois que ça va être peut-être le clou de cette émission, faut bien le dire.
Oui.
De voir réunis ici, côte à côte, et devant le clavier, deux des plus grandes vedettes du cinéma français qui vont nous interpréter une magistrale page classique. J'ai nommé Mademoiselle Delorme ici présente. Et Mademoiselle Signoret, épouse d'Yves Montand, d'autre part. Alors, on peut peut-être les emmener au piano.
Thank you.
pense, Yves, que vous ne pouvez mieux faire que chanter maintenant une chanson qui fera plaisir, je pense, à Simone Signoret, parce que elle dit que vous avez du soleil plein la tête, et c'est une chanson d'amour.
Trouver belle la vie quotidienne, ça peut vous paraître innocent, mais la joie des autres, c'est la mienne, et ça me rapporte 100%. Ne cherchez pas, c'est à cause de ça que j'ai du soleil plein ma tête et du printemps plein mon cœur. Je chante une chansonnette, j'ai de la joie et du bonheur, et je descends faire un petit tour, toute la ville m'en met plein la vue, et en passant je dis bonjour à tous les copains que je croise dans la rue, car la vie est vraiment chouette quand on la prend gentiment. Il y a bien de temps en temps des petits embêtements, mais quand ma rue me sourit, alors je suis content. Il y a bien de temps en temps des petits embêtements, mais quand ma rue me sourit, alors je suis content.
Cinéma musical à Paris, Henri Spade et Robert Chazal ont présenté aux spectateurs et aux auditeurs de la radiodiffusion Télévision Française La Joie de Vivre. Émission publique télé-radiodiffusée animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade. Avec aujourd'hui Yves Montand et Daniel Delorme, Simone Signoret et Bernard Blier, Pierre Brasseur, Henri Crollat, Raymond Leibovitch et sa chorale des Amis de la Nature, Francis Lemarc, Harry Max, François Perrier et les musiciens de Bob Castella. Réalisation André Hugues, speaker Charles Bassompierre, avec bien entendu Robert Lamoureux, l'orchestre sous la direction du compositeur Jacques-Henri Riss et le public de...
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 11 octobre 1953. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».